prudent, la vertu prudente, qui est la clé de toutes les vertus morales. C'est à la fois une vertu de l'intelligence. Saint Thomas commence son traité sur la prudence pour voir si la prudence appartient de fait à la connaissance ou à l'appétit. On voit très bien comment on peut se poser la question. Saint Thomas souligne, non, c'est une question d'intelligence. Mais d'intelligence pratique, souligne-t-il immédiatement après. C'est pour ça que les anciens appelaient la prudence la sagesse pratique. D'une certaine sagesse. C'est pour ça que c'est très difficile. Personne ne pourrait dire, je crois qu'il est suffisamment prudent. Personne. C'est une vertu qu'on acquiert toujours, toujours plus. C'est comme la sagesse. La sagesse, personne ne veut dire, en mettant, ça y est, je suis assez sage. J'ai la sagesse de Salomon. Non, c'est une vertu qu'on acquiert toujours plus. Eh bien, la prudence est comme ça aussi. C'est important de saisir que la prudence a quelque chose qui, touchant notre intelligence, a quelque chose d'infini. L'intelligence a quelque chose d'infini dans sa capacité de perfectionnement. Elle peut toujours aller. Elle a une capacité, elle a une indétermination radicale, tabula rasa. Et donc elle réclame plus de détermination que n'importe quelle autre faculté, plus que la volonté. C'est très curieux. Il y a beaucoup plus d'habitude dans l'intelligence que dans la volonté. Et ça, c'est une des choses étonnantes pour comprendre ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence tabula rasa, donc absolument indéterminée, a besoin plus que de la volonté d'excès, donc de vertu, de détermination interne. Et venir déterminer l'intelligence du dedans pour que l'intelligence soit capable, dans l'ordre pratique, de faire que toute la complexité de notre vie se ramène à l'unité de la fin. On ramène la complexité à l'unité. Et donc, elle doit donner une plus grande lucidité et elle doit avoir une très grande souplesse. La prudence, à la différence de l'art, n'a pas de voie déterminée. Ça, c'est très important de bien saisir, hein, de comprendre que nous sommes là dans l'ordre pratique de l'intelligence. L'ordre pratique de l'intelligence implique beaucoup de souplesse. Et beaucoup de gens, au fond, sont des artistes dans leur manière de vivre. Il y aurait ça chez les stoïciens, chez les épicuriens. Ils sont des artistes dans leur manière de vivre. Ils ne sont pas prudents. Ils ne sont pas vraiment prudents. Des artistes, ils construisent une œuvre. Alors, vous ne pouvez pas construire une œuvre au point de vue de votre vie morale. Vous faites quelque chose de beaucoup plus. Vous essayez de rejoindre une personne. Alors, si vous construisez une œuvre, vous construisez des ponts-levis, des fossés et une forteresse. Mais construire une forteresse, ce n'est pas rejoindre une personne, c'est se défendre de cette personne, mais ce n'est pas s'unir à elle. Le moral tend vers un bonheur qui n'est pas en nous et qui provient de notre bien. Eh bien, il faut que la prudence mette l'intelligence à cette tension vers la fin pour que la fin, le bien qui est fin, s'impose comme un absolu et donc réalise l'unité dans ma vie. C'est la prudence qui réalise l'unité dans ma vie. Alors, il faut bien le comprendre. L'unité formelle, pas l'unité dernière. L'unité dernière, c'est le bien que j'aime. C'est pas ce qui m'attire. Mais pour mobiliser toutes mes forces, pour que toutes mes forces soient sous l'action, sous l'emprise de ce bien qui me finalise, il faut la prudence, il faut l'intelligence. C'est l'intelligence qui permet que toute la complexité des forces qui sont en moi s'unifie. Qui arrive à s'unifier progressivement. C'est-à-dire arrive à se laisser prendre par l'attraction de ce bien. Je crois que c'est cela qui doit nous faire comprendre la nécessité profonde de la prudence. La complexité de nos opérations vitales et l'unité de la fin. La complexité du niveau de vie et l'unité de la fin. Et l'unité de la personne humaine aussi. C'est en ce sens-là que la prudence va coopérer à l'unité de la personne humaine. C'est-à-dire que je suis un, que je suis unifié. Ça concourt vers cela, ça doit concourir vers cela. Et je sais très bien, personne d'entre nous, n'oserions dire, nous sommes assez unifiés. Non. On est plus ou moins unifiés, plus ou moins. Plus on s'approche de notre fin, plus on s'unifie. Et comme on n'est pas entièrement uni à sa fin, on n'est pas entièrement unifié. Il y a en nous encore des quantités de capacités de dispersion à cause de cette potentialité qui fait que je ne suis pas uni à ma fin. Alors il y a toute cette complexité qu'il faut ramener de l'intérieur d'une façon lucide. La prudence donne cette lucidité intérieure et par le fait même aussi toute cette souplesse pour que toute cette complexité demeure une complexité, je ne la supprime pas. Ce serait imprudent de la supprimer. Mais celui qui dirait, mais je vois tout prix, lui dit, alors ce serait encore de l'art. Ce serait encore de l'art. Et chacun d'entre nous avons à chasser le petit artiste qui est en nous par rapport à notre vie morale. Alors c'est ou l'épicurien, il n'y en a pas encore trop, ou le stoïcien, il y en a beaucoup plus. Alors ça, c'est les deux artistes. C'est les deux artistes. Ils prennent deux figures très très différentes. Vous savez. Mais ce sont les deux artistes qui veulent tailler notre vie morale de l'extérieur. Alors l'un supprime les passions, le stoïcien. Ça, c'est bien plus commun, il n'y aura plus de passion. Alors à ce moment-là, il y aura l'unité de l'esprit. Car les passions ont bon dos à ce moment-là, chez le stoïcien. Ou l'épicurien, qui lui dira, je veux unifier ma vie par le point de vue du plaisir. C'est l'unification par le point de vue du plaisir. Du plaisir le plus intérieur. Au fond, la satisfaction que j'ai de moi-même d'être dans l'unité. Je me considère comme unifiant toute ma vie. Et je suis heureux de posséder ma vie en main. Et j'en suis heureux. Et je la possède en main. Et c'est vrai qu'il y a une satisfaction là-dessus. Très grande satisfaction. Quand vous êtes dans la dispersion, c'est bien. Un règlement qui vous met dans la dispersion. On vous fait aller d'un monastère à l'autre monastère. Il y a deux monastères, ça complique, hein, c'est terriblement. Alors qu'on est déjà un peu enraciné dans là, on vous déracine tout de suite. Alors on dira, non, laissez-moi encore 6 mois, quand même, hein, on vous déracine. Alors, on s'est fait sa petite cellule à l'extérieur, mais intérieurement, c'est construit. C'est automatique qu'on fait ça. Heureusement qu'on le fait un tout petit peu, il ne faut pas le faire de trop. Et la prudence consiste à garder une souplesse intérieure. En comprenant que l'unité n'est pas en nous, mais au-delà de nous. C'est ça que fait la prudence. L'unité n'est pas en nous, mais elle est au-delà de nous, et dans l'amour que nous avons de la fin. Et à ce moment-là, on peut maintenir une certaine unité intérieure par la prudence. Vous voyez, à la fois une certaine unité intérieure et l'homme prudent considère que c'est pas lui qui fait l'unité. L'unité de sa vie n'est pas entre ses mains. L'unité de sa vie est au-delà de lui. Et il faut accepter Mais on pourrait presque dire que l'homme prudent doit accepter de perdre son unité artificielle, perdre son âme à la manière philosophique, c'est-à-dire perdre cette unité qu'il s'est fabriquée lui-même, qu'il s'est construit lui-même, perdre cette unité pour être uni à son véritable bien, en sachant que c'est le bien qui était cette unité. Alors ça demande une très grande souplesse et une très grande lucidité. La prudence nous donne cette lucidité. Une lucidité qui n'est pas commode du tout, parce que c'est une lucidité pratique. Donc elle est à l'intérieur de l'amour. Elle est à l'intérieur de l'amour que j'ai vis-à-vis du bien et de l'intention de ma vie. Alors il y a un très gros problème. Un très gros problème, ça j'avoue que c'est un problème que saint Thomas n'a pas traité. C'est toujours les problèmes qui sont comme ça que saint Thomas n'a pas traité, que le philosophe doit traiter. Enfin, nous avons vu, si vous vous souvenez, le passage de l'amour à l'intention. Et je vous ai dit qu'il y avait là une liberté. La première liberté, la liberté fondamentale, c'était ça. On accepte un premier amour spirituel. On l'accepte ou on refuse. Liberté d'adhésion ou au contraire de non-adhésion. Et c'est en l'acceptant que cet amour devient intention de vie. Alors, est-ce que la prudence va avoir un droit de regard à ce niveau ou pas? Ordinairement, il faut se poser la question pour comprendre toute la dimension de la prudence. Ordinairement, on voit que la prudence, et on le dit couramment, et saint Thomas le dit couramment, et ça c'est très facile à voir, nous verrons après. La prudence, c'est du côté de l'intention de vie, c'est-à-dire du choix des moyens. Alors on dit que l'homme prudent, c'est celui qui sait choisir les moyens, d'où les retraites d'élection. Pour l'homme prudent, non, exercez votre prudence à la retraite d'élection. Vous avez passé 8 jours dans un couvent, au bout des 8 jours, c'est absolument nécessaire que vous vous décidiez. Mais vous êtes un imbécile si vous ne décidez pas. Alors, vous voyez, ça vous pousse. Et surtout le dernier jour, on vous chauffe pour que ce soit plus malléable. Hein. Et quand c'est plus malléable, un bon coup de marteau, ça y est, ça passe. Alors, oui, la prudence est ici à ce niveau-là. C'est la conformité des moyens en vue la fin. Et je vois toutes les conformités possibles, hein, avec en calmant l'imaginaire et les passions, en vous mettant dans un état de sainte indifférence. Alors quand vous mettez dans un état de sainte indifférence, vous mettez en suspension, vous faites plus poquer les passions, et là vous suspendez vos passions, merveilleux, vous suspendez votre imaginaire. C'est une poquée. Suspendez ça. Suspendez. Et alors, vous pouvez avoir une objectivité parfaite. Je fais une petite caricature, mais c'est un peu ça. Je fais la caricature pour pousser jusqu'au bout, pour qu'on voit mieux. Pour qu'on voit mieux la lucidité du choix. Ben, on oublie à ce moment-là que ce choix ne peut se faire qu'à travers une affectivité comme une intention de vie. Et donc une affectivité qui implique nécessairement les passions, je ne peux pas entrer dans la sainte indifférence. L'indifférence au niveau du choix est impossible. Absolument impossible, c'est pas rien. Je peux demander de supprimer la passion, de ne pas la supprimer. Ça c'est Dieu qui reste le sien. Dieu qui reste le sien. La passion est toujours mauvaise. Donc suspendons nos passions. C'est pas dit dans l'évangile, hein. Pas dit du tout dans l'évangile, l'évangile n'est pas ça du tout. Donc c'est le caractère n'est pas ça qu'un moral chrétien, et c'est pas humain en plus de ça. C'est du reste pour ça que c'est pas chrétien. Parce que si c'est pas humain, c'est pas chrétien. Et c'est vrai que c'est pas humain. Parce que nécessairement, l'intention de vie, c'est un amour que j'ai pour ma fin. Et l'amour spirituel est lié à la passion. Et assume la passion, mais ne l'éteint pas. Comment voulez-vous choisir, soi-disant objectivement, en supprimant le sujet? On est engagé, c'est nous qui sommes engagés. Donc c'est plus objectif. Et donc nécessairement la passion existe, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être dans l'indifférence. La passion n'est jamais indifférente. Autrement, c'est une passion qui, je ne sais pas comment elle est, d'un clair de lune, vraiment très, 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 très fadasse. Mais moi, alors, parce que la passion ne peut pas être indifférente. C'est assez neuf aussi. La passion m'engage toujours. C'est toujours subjectif, la passion. C'est toujours un état affectif. Et bien, cet état affectif fait partie du choix prudentiel. C'est très vrai que le choix prudentiel doit apaiser. Alors, je dirais apaiser les passions, oui. Prendre un peu de recul, oui. C'est pas l'indifférence. Prendre un peu de recul. Saisir mieux et apaiser l'imaginaire, oui. C'est pas au moment où tout est très, très en agitation qu'on pourra choisir. Tranquillisez-vous, attendez quelques jours, vous verrez mieux. Vous verrez mieux. Vous verrez plus calmement. Vous ne faites pas ça tout de suite maintenant où votre cœur est meurtri et vous êtes dans la possibilité de choisir. Attendez un tout petit peu. Oui, c'est pas supprimer les passions, c'est pas se mettre dans l'indifférence. Simplement un peu de recul. Ça, oui, ça c'est l'homme prudent. L'homme prudent demande un tout petit peu de recul. Pour choisir les moyens. Et alors c'est là où, de façon classique, on dira que la prudence donne conseil. Un homme prudent, c'est un homme de bon conseil. Ça, c'est sûr. Parce que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller, qui ne se laisse pas aller par les passions, qui ne se laisse pas aller par l'imaginaire. Et donc, il donnera un bon conseil. Un homme prudent, c'est celui qui saura choisir au bon moment. Donc il ne choisira jamais quand il est dans un état d'énervement. Il ne choisira jamais quand il est dans un état de, je sais pas, d'agressivité. Ou d'une concupiscence effrayante. Non, il essaiera de mettre du recul. Ça, c'est l'homme prudent. Mais il prend du recul pour mieux choisir, pour mieux sauter. Hein. Mais il va sauter, c'est-à-dire il va choisir. C'est pas uniquement celui qui prend du recul. C'est celui qui vraiment s'engage, et il s'engage dans le choix. Donc, il y a là quelque chose de très important à souligner, qui est normal, ordinairement, c'est là où on voit mieux ce que c'est que le point de vue de la prudence. Si on n'a pas la vertu de prudence, on se laissera emporter par l'imagination, on se laissera emporter par la passion. Tandis que si on a la vertu de prudence, on dominera les passions suffisamment, on prendra suffisamment de recul, on aura du temps, et on arrivera à rendre beaucoup plus limpide le point de vue de l'imaginaire. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de voir beaucoup plus important. C'est très important, là, cet acte de la prudence. C'est l'impérieux, et puis c'est ici. Vous voyez, c'est ça que je voudrais essayer de comprendre avec vous. Mon impérieux, c'est encore très classique. Simplement reconnaît que l'homme prudent, c'est celui qui sait poser l'impérium au bon moment. Pas trop tôt, et puis pas trop tard. C'est très mis au temps, l'impérium. In tempore opportuno, hein, dans le temps opportun, on sait poser l'acte juste au bon moment. Ça, c'est une question de prudence, c'est une question d'intelligence, vous voyez. C'est une question d'intelligence. Quand on se précipite, ça ne va pas. Quand on est trop paresseux, ça ne va pas. Il faut poser l'acte au bon moment. L'impérium au bon moment. Alors ça, l'intelligence joue un rôle très important. Et la prudence est là pour poser l'impérium. Et l'impérium doit se faire, comme nous l'avons dit, rapidement. Une fois que l'impérium est posé, on pose rapidement les choses. On n'en dit plus. Il n'y a plus aucun, à ce moment-là, de scrupule. Le scrupule empêche la prudence. Il faut se guérir de ces scrupules. Pour être prudent, ça lui vient, la parole de Peggy, qui est admirable. Quand il dit, on sait je suis plus les pieds quand on est dans le salon. Moi, je sais que je suis avant. Celui qui continue de s'essuyer dans le salon, je ne vois pas, quoi. Il dit tout le temps, je regardais les personnes, il regarde ses pieds, puis il faut qu'il regarde debout. Alors, il est très très gêné, et il peut essayer de les cacher comme il peut, et puis s'essuyer les pieds, même dans le salon. Alors, on voit très très bien, hein, c'est que l'impérieux, l'interview n'est pas assez net. Alors on revient sur le choix. Ah, j'aurais pu choisir autrement. Ah, j'ai oublié ce conseil. Non, j'ai pris la décision. Ah, on a envie hein, de donner un coup de pied au derrière à ce moment-là, là, à celui qui n'avance pas. Et ça, c'est l'interview. L'interview, c'est allez, vas-y. Avant, tu as pris la décision. Tu l'as prise. Très, très bien. Maintenant, avance. Celui qui manque de prudence a besoin d'être soutenu par quelqu'un à ce moment-là. C'est normal de faire pour un enfant. Ça ne va plus pour un homme. C'est vrai. Il peut y servir de béquille en donnant bon conseil, mais après, non. Allez, débrouillez-vous. Le choix, une période. Alors là, la prudence est nécessaire. Pourquoi ? À cause, justement, de cet état réflexif, de cet état de scrupule dans lequel on peut entrer. Le scrupule est imaginatif. Il est imaginatif, le scrupule. Hein? C'est un phénomène d'imagination. C'est un phénomène d'imagination morale. C'est l'imagination qui a la place d'être dans son domaine propre, tout simplement, mais au niveau moral. C'est pour ça que pour diminuer le scrupule, il faut arriver à trancher nettement. C'est ce qu'on dira, le scrupule ne peut être guéri que par l'obéissance. Parce que l'obéissance fortifie la vulgarité. Et c'est vraiment ça qui guérit le scrupule. Parce que le scrupule s'oppose. C'est la maladie qui arrête une période. Qui arrête la lecture du derrière. Qui fait qu'on se replie sur soi. Et c'est pas la même chose de scrupule et l'angoisse, de ce point de vue-là. L'angoisse est beaucoup plus fondamentale que le scrupule. Beaucoup plus. Le scrupule, c'est à l'égard de l'intérieur. Tandis que l'angoisse, c'est à l'égard de la tension de vie. C'est beaucoup plus fondamental. Je dirais que c'est plus fondamental. Et le scrupule, c'est la question de l'ordre entre les moyens et la fin. Ah, j'ai pas choisi le bon moyen, j'ai fallu faire attention. Alors on revient, tu es sûr que j'ai fermé la clé, j'ai fermé la porte. J'ai, alors on revient, viens indéfiniment, viens. Ça c'est la maladie, des tas de choses, il y a du reste. Mais c'est comme ça que vous savez, on sait, il faut le savoir, qu'on est susceptible. Ordinairement, ça provient d'une conscience très sensible. Alors quelqu'un un peu perturbé, on a d'autres projets à un moment donné, on avait l'habitude à passer à l'intérieur. L'intérieur, on regarde plus en arrière. On est tout entier tout vivant. Tout entier. On se jette à l'eau. Tandis qu'au contraire, celui qui est dans le scrupule, même s'il a pris l'acte d'intérieur, il réfléchit encore sur le choix. Il réfléchit encore sur le conseil. Il réfléchit encore sur l'adaptation selon le vis-à-vis de la fin. Il nous dit tout le temps qu'il est dans une délibération infinie, imaginative. C'est l'imagination qui s'empare de la délibération. Et alors, la prudence vient être là quelque chose de net, de précis. Et si on ne peut pas soi-même, on demande l'aide de quelqu'un d'autre. Et c'est en s'appuyant sur l'autorité qu'on arrive à dépasser le scrupule. Évidemment, scrupule et angoisse, ça touche très fort.
Et la différence entre le scrupule et le regret.
Ah, le regret. Le regret d'un acte, c'est-à-dire la confession. Hein? Je me suis désolé d'avoir fait cet acte-là, cet idiot, j'aurais pu le faire. Alors, vous voyez, quelquefois, le scrupule peut s'engager sur le côté aussi. Avant et après. Le scrupule avant n'agit pas. Je n'ai pas fermé la porte à télé, je reviens. Alors, les enfants, il faut. Tu vois, alors on revient. Tu vois, c'est. Alors, on revient sur là, si on n'agit pas, sur une taille. Tandis que le regret, c'est après. Mais c'est la même chose. Mais. Le scrupule dans le remords qu'on a. C'est un remords imaginatif. Donc, c'est l'imagination qui t'en parle. Et c'est là où on voit très bien comment la prudence, l'intelligence, lutte contre l'imaginaire. Mais un impérium net. On t'a dit de faire ça, tu l'as fait dans l'obéissance, marche. C'est tout. C'est ça qui guérit. Et ça qui permet de continuer. Oui. Et c'est là où l'obéissance joue beaucoup. Il aide beaucoup pour gagner le point de vue de la. Donc, la prudence regarde une période pour s'enraciner et exercer quelque chose, avancer et aller l'avant. Donc, on comprend très bien qu'il soit simplement reconnu. Il y a une question sur laquelle on reviendra après. Est-ce que l'impérium est un acte plus proche de la prudence que le choix? C'est vraiment ça qui fait une signification. S'il y en a deux, il y en a nécessairement un autre. Mais une question beaucoup plus délicate, c'est de savoir jusqu'où remonte la prudence. Beaucoup plus délicat, et c'est intéressant de voir ça. Autrement dit, jusqu'où s'enracine la prudence? Question d'enracinement. Mais l'intelligence. L'intelligence, elle est présente ici, dans l'amour spirituel. L'intelligence est présente ici, dans l'intention de vie. L'intelligence est présente ici. L'intelligence est présente ici. Quatre présences de l'intelligence. Les quatre présences de l'intelligence sont assez différentes. Nous l'avions vu. Hein. Plus on va vers l'impérium, plus l'intelligence détermine. Plus l'intelligence détermine. Quand il s'agit de l'amour, ce n'est pas l'intelligence qui détermine, c'est le bien. Quand il s'agit de l'intention de vie, c'est le bien fin. Quand il s'agit du choix et du moyen, ça peut être les deux. C'est de temps en temps l'intelligence, de temps en temps le bien moyen. Ça peut être les deux. Et quand il s'agit de l'impérium, c'est l'intelligence qui détermine. Vous voyez, alors c'est très très curieux de voir ça. Alors on comprend à partir de là comment l'intelligence va pénétrer, vous voyez, pénètre de plus en plus dans cet amour. La prudence, elle est acquise à l'intérieur même de l'intelligence pratique. Alors est-ce que la prudence va regarder ces quatre démarches? Même si ça, je pourrais dire ici, trois primes, c'est le conseil. C'est cinq moments. Hein, si vous mettez un, deux, trois, quatre et cinq. C'est cinq moments d'intelligence existent. Alors, est-ce que l'impérium va de fait, je veux dire, est-ce que la prudence va de fait remonter jusque ce passage-ci? On sait qu'elle descend jusque-là. Autrement dit, est-ce que la prudence va regarder toute l'activité de l'intelligence pratique? Je serais tenté de dire que oui, que la prudence va modifier, va transformer tout ce qu'on a dit. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on a fait une sagesse. Mais si la prudence, comme habituellement on dit, je dis que je cherche, c'est très difficile à affirmer de façon absolue. On dit de façon habituelle que la prudence, c'est uniquement les moyens en vue de la fin. Ça, c'est classique et c'est très facile à comprendre. Je ne vois pas comment, à partir de là, on peut dire que c'est une sagesse. C'est pour ça qu'il y a quelque chose avec une tracasse. Si c'est une sagesse, ça touche ce qu'est l'ultime. C'est le propre de la sagesse. La sagesse regarde toujours les causes ultimes. Elle ne regarde pas les causes intermédiaires. C'est la science qui a les causes intermédiaires. Que la prudence. Et il fait l'analogie avec la science et la sagesse. La science regarde les conclusions. Et les conclusions, c'est le rapport du moyen à l'égard de la fin. Alors que la prudence regarde ça, je suis tout à fait d'accord. La sagesse implique la science. Mais la sagesse a quelque chose de plus. Elle regarde les principes propres. Elle remonte à la fin. Par ici, les principes, c'est la fin. Donc, il faut bien que la prudence regarde ce passage de l'amour spirituel à l'intention de vie. Si on n'en parle pas, c'est parce que d'habitude, évidemment, c'est surtout à partir de l'intention de vie que nous comprenons mieux, ou bien peut-être parce qu'on est en théologie. Saint Thomas nous donne une morale théologique. Alors, est-ce qu'on était en théologie, la foi ne remplace-t-elle pas la prudence? La foi, l'espérance. Elle nous donne ce désir. Oui. Mais bien fortifie mon premier amour. Alors, d'une certaine manière, la foi suffit. La prudence là serait uniquement. Alors, le don, mais alors, j'ai don de conseil. Alors, le don de conseil touche l'amour. Forcément. Et alors, le don de conseil touchant l'amour, ça ferait comprendre cette partie beaucoup plus subtile. C'est pas uniquement le don de conseil, c'est pas seulement les moyens, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la manière d'envisager l'intention de vie. Ça, c'est sûr que le don de conseil a quelque chose de beaucoup plus radical. Et ça, c'est de la théologie. J'ai essayé maintenant, uniquement au niveau philosophique, de comprendre, d'essayer de comprendre comment la prudence doit rectifier ce passage de l'amour spirituel à l'intention de vie. Pourquoi? Étant donné qu'il y a un péril, il y a toujours un péril de tomber dans le dilettantisme. Il y a toujours un péril de se laisser prendre par l'imagination, et de faire que cet amour premier ne mûrisse pas, ou mûrisse mal, ou n'aille pas jusqu'au bout ses exigences. Puisqu'il y a un péril de l'imagination, qu'est-ce qui va lutter contre ce péril imaginaire? On va dire l'intelligence est suffisante. Oui, l'intelligence est suffisante, mais attention. L'intelligence est suffisante, mais attention. Quand il y a une lutte, l'intelligence a besoin de se fortifier, c'est-à-dire se déterminer davantage. Alors, il me semble qu'on peut dire que l'enracinement profond de la prudence, c'est de venir fortifier mon intention de vie. Et alors, c'est là où elle est sagesse. Elle nous donne un sens beaucoup plus profond de l'intention de ma vie vers ma fin. La fin que j'ai choisie, c'est-à-dire que cet amour spirituel que j'ai choisi, il est libre. Donc je l'ai choisi. Je l'ai choisi en pleine connaissance de cause pour qu'il devienne ma fin. Pour qu'il devienne ce qui unifie toute ma vie, ce qui polarise toute ma vie. Et qui permet à partir de là le choix, le conseil, le choix des moyens et l'évasion. De sorte que, vous voyez, là nous donnons à la prudence un enracinement beaucoup plus radical que si on voyait la prudence uniquement au niveau des moyens. Il faut y réfléchir au moins. Si vous avez des raisons d'opposition, vous me le direz. Mais il faut y réfléchir, parce que ma femme fracasse toujours à cause de ce fait qu'on considère la prudence, ça c'est une donnée traditionnelle, comme une sagesse de vie. Si c'est une sagesse, c'est tout seul. Donc là, c'est autrement. Et elle me lie profondément à la fin. Elle m'aide, elle me donne une lucidité plus grande pour que je sois plus lié à la fin. Un homme prudent est un homme qui poursuit avec une plus grande acuité sa fin. Et qui fait comprendre que c'est cette poursuite de la fin, cette mobilisation de toutes mes forces dans l'intention de vie, qui est la chose principale, première. Oui.
Ça passe par les moyens.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ça passe par les moyens.
C'est-à-dire, les moyens sont toujours liés, puisque c'est à l'intérieur même de cette délibération. Ça, ici, je fais une analyse, comprenons bien. C'est une analyse. Et dans la vie, l'intention de vie se fortifie grâce aux moyens. Concrètement, n'est-ce pas? Mais il y a quand même un premier choix. Oui, il y a quand même un premier choix. Et ce premier choix, c'est ce passage de ce premier amour spirituel à l'intention. Et là, l'imaginaire peut jouer. Et parce que l'imaginaire peut jouer pour me détourner de ce bien, il y a, je crois, la nécessité d'une intelligence plus fortifié. Vous dites, il y avait quelque chose d'analogue, comprenez. Quand on regarde le point de vue scientifique, toujours le côté de l'intelligence scientifique spéculative est plus clair. On a le nous, on a l'intelligence des principes, on a la science, il y en a la sagesse. La sagesse implique l'intelligence des principes et implique la science. La science n'implique pas l'intelligence des principes et la sagesse. Or, quand je dis que la prudence est une sagesse pratique, je peux donc dire que la prudence va s'enraciner dans ce qui est le plus profond dans mon intelligence pratique, le sens que j'ai de ma science. C'est donc bien ce passage de la bouche du cœur intentionnel. Et qu'il me semble que c'est très peu mis en lumière. Et que ça me semble pourtant la chose première. On voit trop la prudence parallèlement à la science. Et pas assez parallèlement à la science. C'est comme ça que je me sens. Et que la prudence a quelque chose, vous voyez, de plus que les vertus morales. Elle est la clé des vertus morales. Donc elle est bien sagesse. Tandis que si je vois la prudence parallèlement aux vertus morales, je dirais oui, exactement comme le point de vue de la tempérance, le point de vue de la force, ça regarde. Et puis même là, je dirais attention, comme nous allons voir, la tempérance et la force présupposent l'intention, présupposent mon appétit. Qu'est-ce qui va régler cet appétit? C'est forcément la prudence. C'est à la racine de cette rectitude, de cette rectification que j'ai par rapport à ma femme. Pour tendre de toutes mes forces vers le produit de la femme. Donc il y a là quelque chose au moins qu'on doit se poser de problème. Hein. On doit se poser, bon, je ne vais pas discuter plus, mais je crois qu'il y a là quelque chose d'important, avoir un parallèle avec ce que représente l'intelligence spéculative. Il y a quelque chose d'analogue, vous voyez, par rapport à la sagesse. Il y a quelque chose d'analogue. Et je crois qu'on pourrait dire que de fait, vous voyez, du côté de l'intelligence de pratique, on dira la fin des rêves, hein, ça vient. Saint Thomas appelle la fin des rêves. La fin des rêves, c'est ce qui lui donne le point de vue. Mais la fin des rêves est dominée par cette sagesse pratique. Elle n'est pas extrinsèque, elle est dominée par cette sagesse pratique. Et elle doit le voir à l'intérieur exactement comme la sagesse implique l'intelligence de pratique et la science. Alors, il n'y a pas de prudence, une prudence qui regarde les moyens, une prudence. Non, non, c'est la même prudence. Et c'est pour ça que dans la vie, les deux sont très liés, mais si je l'analyse, je dois voir quelque chose qui t'enferme. C'est nécessaire pour être prudent de fortifier de plus en plus son intention de vie. Et c'est que dans la mesure où mon intention de vie devient quelque chose de très vital en moi, que tout le reste l'emportera. C'est la locomotive hein, qui emporte tout le reste, et qui est capable d'emporter tout le reste. Et si cette intention de vie commence à végéter, à être palote, ça ne va plus du tout. Et j'aurais beau à ce moment-là être très très prudent vis-à-vis des moyens, mais s'il n'y a plus rien pour entraîner les moyens, si de fait mon intention de vie diminue, le choix des moyens peut être merveilleux, étonnant, mais c'est pas ça qui compte. Il faut que ces moyens soient ordonnés par la fin. Donc je dirais, vous voyez, qu'on pourrait mettre l'intervention de l'intelligence et l'intervention de la prudence à ces cinq niveaux. Évidemment, le niveau 1 et le niveau 2 sont très très forts, hein, comme le prudentiel. Ce qu'il nous faut, c'est à ce niveau fortifier mon intention de vie. Rendre que mon intention de vie soit plus lucide. Soit plus lucide. La prudence la rend plus lucide. Hein. Je ne dis pas qu'elle la rend plus aimante. Ce n'est pas la prudence qui la rend plus aimante. Elle la rend plus lucide. Et si elle est plus lucide, elle sera plus aimante. Plus mon intention de vie est lucide, plus je m'aime. Plus elle emporte en moi un amour grand. Alors la présence apporte cette lucidité, pas exactement la première affectivité. Non. Alors le reste est facile à comprendre que la prudence est là pour intervenir. Immédiatement après la vertu de prudence, qu'est-ce qui vient? La vertu de justice. Alors là, c'est peut-être très important de bien développer la vertu de justice. Si vous avez le temps, regardez dans l'éthique d'Aristote, regardez dans Saint-Thomas. Et ceux qui sont très intelligents, un œil sur Aristote, un œil sur Saint-Thomas, pour comprendre la différence de l'organisation du philosophe et l'organisation du théologien. C'est un très beau petit travail, passionnant, ça va. C'est passionnant d'étudier la justice. On voit, même quand on n'a pas d'impôts à payer, c'est que c'est passionnant. Regardez la justice. La justice vient perfectionner ma volonté. C'est très curieux. La volonté a besoin d'être perfectionnée vers la justice. Et la volonté à l'égard de l'amour et d'amitié. Y a-t-il une vertu propre pour l'amour et d'amitié? Non. Que la modalité qui a la fin. Aristote lui dit de savoir s'il y a une vertu de l'amitié ou pas. Il n'y a pas de vertu de l'amitié. Ça se fait, il y aurait des quantités de choses. Parce que la vertu de l'amitié, à ce moment-là, est directement liée à la fin, parce qu'elle est immédiatement liée à la fin. Elle a une cette diligence interne beaucoup plus profonde, mais en même temps, elle n'a pas de possession. Elle ne possède jamais l'amitié. Tiens, ça c'est jamais ce que ça dépend d'eux. Je ne peux pas mettre dans ma poche la volonté de l'autre. Hein. Et c'est ce qui explique comment, au fond, il n'y a pas de vertu au sens absolu. C'est la fleur des vertus. C'est la fleur des vertus. C'est la modalité de développer. Et il n'y a pas de vertu. Tandis que la justice, oui. La prudence, l'intelligence, avec la prudence. L'intelligence pratique perfectionnée par la prudence. La volonté. On ne dit pas de volonté spéculative et de volonté pratique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de division comme ça du côté de la volonté. Mais c'est une avancée, si vous voulez, vous rendre illustre que c'est de la volonté spéculative et de la volonté pratique. Vous voyez? Alors, la volonté spéculative, vous voyez ce que serait, c'est la volonté, l'amour de la vérité. C'est la volonté pratique, c'est l'amour de la justice. C'est l'amour du droit de l'autre. Alors, il faudrait se demander pourquoi il y a une vertu pour la justice et il n'y a pas de vertu pour l'amour de la justice. On reprendra ça. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.